de serre en trois, qu'un beau panorama vous est passé. J'aurais envie de vous poser une quarantaine de questions, mais je vais quand même laisser la place à la salle. Mais avant de laisser la place à la salle, je ne vais pas rester. Il y a une réflexion qui est déjà les deux petites réflexions. Une, c'est vrai que la relation Trudeau-Lopez-Portillo était très importante, mais j'aurais été intéressé par le contexte. C'était le contexte où les États-Unis adoptent les mesures Nixon, hein, c'est-à-dire ces mesures de grand protectionnisme en 71. Et là, on a vu les deux pays, Canada et Mexique, réagir de la même façon contre ce protectionnisme des États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que je regarde Mathieu tout à coup, là, Mathieu Arès, parce qu'on a travaillé là-dessus. Les deux ont réagi de la même façon en se détachant, en voulant se détacher des États-Unis. C'est la troisième option au Canada. C'est le rôle du Mexique qui veut jouer, qui veut assumer son leadership au niveau mondial. Donc les deux veulent se détacher, ils prennent des voies parallèles, dont celle, bien sûr, de ce que vous avez mentionné. Ben, mais ma réflexion, c'est que ça a tourné court, tout ça, parce qu'on n'a pas poursuivi dans cette voie d'une espèce de solidarité entre les deux qui aurait permis de renforcer les liens dans un contexte où les États-Unis, en quelque sorte, se refermaient à nouveau sur eux-mêmes. Ça, c'est la première réflexion. L'autre, plus actuelle, j'aimerais aimé vous entendre sur le CELAC, parce qu'on dit bien que le Canada et le Mexique se rapprochent d'une excellence, mais le Mexique s'est joint à cette communauté d'Amérique latine et de la Caraïbe, et cette communauté s'est créée sans les deux gringos del norte, hein, sans ni le Canada ni les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous pouvez réagir, après ça, je vous promets, je vais peut-être rentrer vos questions.
Mais je voulais profiter de mon privilège de situation.
Oui.
Bon, je pourrais dire quelques mots très courts sur ça. Pour le moment, je crois que j'ai tendance à être d'accord avec M. Boucher en ce qui a trait à la relation ou la possibilité d'une intégration plus approfondie trilatérale, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je vois que c'est pas possible, ça sera pas possible dans le court terme. C'est vrai que ce voisin est trop présent, et non seulement entre le Canada et le Mexique, mais un peu partout. Tous les pays du monde, ou presque tous les pays du monde, mettent leurs relations avec les États-Unis en premier lieu avant presque tout. Tous les autres. Mais je pense qu'éventuellement, on va arriver là. Et je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Et on le fait ensemble. Comme par exemple, en ce moment, nous sommes main dans la main à l'OMC pour l'affaire, ça s'appelle Cool, je crois. Ouais. Non ? Là, et pour le Buy American, on est aussi dans la même voie. Et on se met d'accord chaque fois que ce partenaire bouge un peu trop dans la vie, non ? Et on se resserre un petit peu pour qu'il ne nous pousse pas et nous fasse tomber. Alors, je crois qu'éventuellement, nous allons arriver à une intégration qui nous sera imposée par les faits. Parce qu'à un moment donné, moi j'étais aux États-Unis il y a quelques années à l'ambassade, et j'avais un ambassadeur qui était quelqu'un de très connu au Mexique, un ancien politicien qui avait été candidat à la présidence, M. Jesús Silva Herschel. Et on lui demandait, bon, et alors aux États-Unis en ce moment-là, il y a beaucoup de Mexicains, vous êtes en train de récupérer les États-Unis. Et lui disait, bon, oui, on est en train de récupérer les États-Unis, oui, avec l'avantage en plus que maintenant, c'est goudronné. On revient dans un... Hein? Alors, c'est un peu ça. Petit à petit, on s'intègre de plus en plus, la langue se parle plus dans les trois pays, et éventuellement, nous allons arriver à quelque chose. Pas vraiment, je crois, qu'à l'image de l'Union européenne, ça serait une erreur penser qu'on pourra faire comme ça parce que les conditions sont différentes, les pays étaient différents, on n'avait pas, l'Europe n'avait pas un pays central comme les États-Unis qui était la première économie mondiale à ce moment-là, c'était des pays avec des niveaux de développement différents et très, très différents entre eux aussi. Il faut voir l'Espagne et le Danemark ou le Portugal et je ne sais pas, moi, un autre pays. Bon, on arrivera à ça. Pour le CELAC, il y a eu un ministre des Affaires étrangères, Fernando Solana, qui disait « México es un país de pertenencias multiples ». C'est un pays qui appartient à beaucoup de régions. Le fait de la localisation géographique mexicaine, c'est absolument évident. C'est un pays d'Amérique latine en Amérique du Nord. C'est un pays qui regarde vers l'Europe, qui regarde vers le Pacifique, qui c'est un pays des Caraïbes, c'est un pays aussi d'Amérique centrale. Et c'est évidemment un pays d'Amérique du Nord. Le CELAC, c'est une des poupées russes, quoi. On a je sais pas, des choses comme le Mercosur, à 4, fermé. On a du côté...
Le pacte
andin qui ne marche plus.
L'Alliance Pacifique.
L'Alliance Pacifique, c'est quelque chose de nouveau, et je vais aussi me référer à ça. Plusieurs mécanismes qui s'emboîtent les uns sur les autres. Et c'est vrai que le CELAC répond à une demande d'intégration latino-américaine qui ne prend pas en compte les États-Unis et le Canada, qui sont eux représentés à l'OEA. Alors c'est une instance différente d'intégration, ce qui ne veut pas dire que ça soit contre l'Amérique du Nord ou les deux pays non inclus de l'Amérique du Nord. L'Alliance Pacifique, on a la tendance à croire que c'est quelque chose qui a été fait pour, disons, contrarier les Brésiliens. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Je sais que les Brésiliens de temps en temps se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça avance très vite. Ça a beaucoup de succès. Mais non, à la fin, c'est des pays like-minded. C'est des pays d'Amérique latine qui croient au libre-échange. Donc, le Chili, on a un accord de libre-commerce avec le Chili bien avant celui qu'on a eu avec les États-Unis et le Canada. C'est le premier, d'ailleurs, qu'on a eu avec le Chili. C'était quoi, 90, je crois, non? Je ne me souviens plus, mais c'était avant la Lima. Le Pérou, qui connaît un développement assez incroyable ces dernières années. La Colombie. Et petit à petit, je crois que le Costa Rica est déjà aussi là. C'est des pays qui pensent et qui voient les choses du point de vue commercial avec une même loupe. Et c'est surtout penché vers le commerce et les relations vers le Pacifique. Vers le Pacifique. Le Brésil n'a pas de côte vers le Pacifique. Alors, et en plus, on a découvert que ça marche. Et ça marche très bien. Et on a invité d'autres pays, on a invité le Canada, évidemment, il y a des réticences. Ça, c'est tout à fait vrai. On se demande si c'est bien ou c'est mal, mais c'est aux Canadiens de voir. Mais de toute façon, moi, je trouve que c'est quelque chose qui va nous amener très, très loin et très, très vite. Merci.
Question ? Question ?
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Mathieu Arèche, je suis de l'Université de Sherbrooke. Je connais un peu le Mexique pour y avoir travaillé beaucoup avec justement Dorval. Moi, c'est un peu pour continuer la conversation, c'est sur justement l'Alliance du Pacifique. Là, est-ce que il y a une réflexion commune, par exemple, par rapport au TTP? Est-ce que c'est un mécanisme qui va permettre justement de développer, une approche originale à côté des États-Unis, parce que les États-Unis, oui, ils nous ont invités, mais M. Obama était beaucoup plus pressé que le Canada puis le Mexique, et maintenant, il s'est dit, je vais y aller sans eux s'ils ne veulent pas. Et le Canada s'est invité, un peu comme il avait fait avec l'ELENA à l'époque. Donc, un peu, est-ce que c'est un véhicule où vous venez de dire que oui, ça marche, mais est-ce que, par rapport à la relation, par exemple, justement, dans le grand projet transpacifique, parce que c'est pas si clair, hein, c'est pas si clair. On est en train de développer un projet, nous, sur le phénomène, justement, reprimarisation versus même désindustrialisation par rapport notamment à la Chine, où le pays, vous allez me dire que dans le TTP, la Chine n'est pas là, oui, je suis d'accord, mais tout le monde pense à la Chine dans le TTP. oui. Et à ce moment-là, un peu cette relation de chacun des pays aussi par rapport entre eux, mais aussi par rapport à l'Asie d'une manière générale, si vous aviez quelques mots à dire, parce que le Canada a le même questionnement actuellement. Oui, on vend beaucoup de pétrole, mais en même temps, on est inondé de produits chinois. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une coopération sur une réflexion commune ou éventuellement des actions qui seraient un peu à côté des États-Unis? Merci, si vous pouviez souhaiter quelques mots.
Quelques mots très, très rapidement. Est-ce que c'est une stratégie pour négocier le TPP? Je ne crois pas. Parce que dans le cas mexicain, on est les derniers à entrer à l'Alliance Pacifique. L'Alliance Pacifique qui existait déjà, qui commençait à faire ses premiers pas entre les autres trois pays, le Chili, le Pérou. C'est une idée du Pérou. Et c'est Alain Garcia qui nous invite, si je me souviens bien. Alors non, et en plus, ça vient avant que notre accès au TPP. Moi, je crois que ce que nous pensons là, c'est que c'est la seule négociation multilatérale commerciale importante qui est en train de se faire. Nous sommes membres de l'APEC depuis très longtemps. Nous voulons développer nos relations et ce biais-là nous convient absolument et c'est très chanceux que nous soyons entrés ensemble à ça. Mais si c'est une stratégie du Mexique pour se faire accompagner au sein des négociations du TPP, c'est peut-être une dérivée de ça, mais c'est pas le... Je crois, je sais pas.
Ouais, juste un petit commentaire. C'est sûr que depuis l'échec de l'OMC, toutes les négociations commerciales multilatérales à l'OMC prennent de l'importance. Donc pour le Canada, à partir du moment où il y a un partenariat transpacifique, pour nous, c'est... Il faut être partie de ces négociations-là. C'était pas évident. Je pense que maintenant, c'est accepté. Il faudra voir quels vont être si le Canada pourra se joindre, dépendant de ce que sont les termes de l'accord, etc. Mais moi, je voudrais dire quelques mots plus sur l'intégration des Amériques. Il ne faut pas oublier que c'est ça, dans les années 2000, quand même, il y avait tout un effort de la zone de libre commerce des Amériques. Et ça n'a pas fonctionné. Et je crois que ça, c'est un peu le défi. Je veux dire, il faut accepter, comme disait le président Mitterrand, de donner du temps au temps. Je crois que ça va être assez long d'avoir une intégration des Amériques. Est-ce que ça sera possible au niveau commercial et économique? C'est pas évident. Et quand on voit ces lacs, ça montre aussi que de la part des Latino-Américains, il est très important pour eux de se retrouver entre eux et d'avoir leur propre aire d'influence. Et nous, on souffre, le Canada, de notre voisin américain où tout le monde ne veut pas avoir toujours le poids américain dans des organisations. Donc, et c'est un peu ce qui se passe avec CELAC. Je suppose que le vrai défi à moyen terme, c'est des organisations panaméricaines comme l'OEA, est-ce qu'elles vont réussir à continuer à être pertinente, à jouer vraiment un rôle dans la région, ou alors on va voir, comme vous appelez, des poupées russes qui vont devenir plus efficaces, etc., etc. Je crois que ça, c'est le vrai défi. Et c'est pour ça que le Canada va investir un peu l'OEA. On a beaucoup de frustration parce qu'on peut dire que ce n'est pas l'organisation la plus efficace, etc., etc. Et là, je crois qu'il va avoir besoin, je ne sais pas qui sera le prochain secrétaire général, il va avoir besoin d'un leadership très fort là pour remettre l'OEA comme le véritable intégrateur des Amériques. Et moi, je crois que ce n'est pas joué d'avance. Il va falloir voir ce qui se passe. Mais selon moi, le prochain secrétaire général de l'OEA, il y a une grande question de leadership là, mais il va falloir que quelqu'un qui ait cette force-là. Sans ça, on va voir CELAC ou d'autres prendre de l'importance et tout. ça.
Ben, juste un petit mot pour dire que je trouve ça vraiment dommage que je ne puisse pas participer aux échanges sur les grandes questions géopolitiques. Petite remarque personnelle, étant donné que je ne suis plus au gouvernement, mais c'est sûr que le Québec aimerait pouvoir participer davantage à ces forums-là. Nous aurions beaucoup à dire. J'aurais beaucoup à dire personnellement aussi. Mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Maintenant, sur un plan plus personnel, peut-être... moi, j'étais à la direction Amérique latine aux affaires étrangères il y a déjà près de 40 ans. Et je constate par les échanges ce matin que les choses n'ont pas beaucoup changé. La question de l'OEA, par exemple, que Claude Boucher a abordée dans sa présentation, c'est sûr que le Canada est sous Trudeau, Claude, tu t'en souviens, le Canada résistait à l'entrée dans l'OEA justement pour ne pas être pris entre l'arbre et l'écorce et pour ne pas être pris à défendre ou à s'attaquer à des positions américaines dans l'OEA. Et la question centrale à l'époque, c'était Cuba. C'est qu'évidemment, il y a un pacte à l'intérieur de l'OEA qui dit qu'on doit... l'exclusion de Cuba dans l'OEA à cause des suspensions, c'est vrai. C'était une suspension pour des raisons tout à fait, je dirais, américaines et latino-américaines à certains égards, au point de vue politique. Mais c'était un geste, je dirais, d'autonomie du Canada face aux États-Unis. Et la question des relations aussi, le poids relatif du Brésil, du Mexique face au Canada, c'était déjà très, très présent. Le Brésil a toujours été, d'une certaine façon, un compétiteur du Canada au plan des ressources naturelles. On a vu les manchettes des derniers jours. C'est des choses qui existent depuis très, très, très longtemps. Là. C'est que le Brésil est un compétiteur dans les mines et métaux, dans le pétrole maintenant, dans l'aéronautique maintenant, très important. Et donc, je dirais un peu ce triangle-là a toujours... moi, j'étais pupitre pour le Brésil et Cuba quand je suis revenu de poste à Cuba. Et vraiment, pour obtenir l'attention des autorités du ministère et les budgets, c'était un combat entre les pro-Brésil et les pro-Mexique. Puis je vois que ça existe encore un petit peu aujourd'hui. Troisième remarque, peut-être, c'est que je déplore évidemment l'évolution de la politique internationale du Canada à l'égard de l'Amérique latine et du Mexique. Je trouve que le Canada s'est trop rapproché des politiques américaines au plan de la sécurité, au plan du mouvement des personnes. On a adopté des politiques qui aujourd'hui font en sorte qu'on perd un petit peu l'avantage que nous avions avant en Amérique latine, c'est-à-dire d'être des gens qui viennent d'Amérique du Nord et qui ont un développement semblable à celui des États-Unis, mais qui ont une politique différente et distincte, et c'était une très belle carte de visite. Alors, évidemment, le Québec fait partie du Canada, donc on est un petit peu associé à ça. Mais compte tenu justement du contexte, bien, le Québec essaie plutôt de travailler au niveau des personnes, au niveau plus à long terme, peut-être en profondeur. On n'a pas à prendre position sur les grandes questions, mais c'est sûr qu'on aimerait pouvoir s'exprimer davantage.
Je peux juste, utiliser ça pour commenter. Il s'est passé quelque chose d'important dans la politique étrangère canadienne. C'est-à-dire que la doctrine Pearson, qui a fondé la politique étrangère canadienne, qui a fait que le Canada était un honest broker au niveau international, que le Canada avait toujours un rôle à jouer, ce qu'on appelle un peu la doctrine Pearson. On était le bon gars, là, un bon partout, etc. Elle est morte. Elle est morte parce que elle est morte par la globalisation. Elle est morte par la fin de la guerre froide, etc., etc. Et là, le Canada est en processus de définir une nouvelle doctrine. Et dans cette doctrine-là, la promotion des intérêts nationaux est très importante. Et moi, je vous dis, j'étais aux affaires étrangères pendant 30 ans. J'ai travaillé à Londres, là. Vous allez au Foreign Office, là, ils vous rencontrent, là, tout de suite, là, ils voient quels sont les intérêts britanniques avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais apporter aux intérêts britanniques? Moi, je dois vous dire que la culture qu'on avait aux affaires étrangères, les intérêts nationaux n'étaient pas la priorité. La priorité, c'était de jouer un rôle conciliateur. Et je pense que l'apogée, ça a été le traité des mines antipersonnelles. Ça, c'est un bon exemple de la doctrine Pearson. Le Canada décide de s'approprier d'un dossier qui est les mines antipersonnelles et arrive à créer un traité international. Et à l'époque, ça avait un sens, etc. Aujourd'hui, ce rôle-là est plus possible. Et le Canada doit jouer un rôle, selon moi, beaucoup plus affirmatif dans la défense des intérêts nationaux. Parce que, et je crois que ça, c'est un peu le défaut de la culture aux affaires étrangères, on n'avait pas assez à cœur la promotion des intérêts canadiens comme la priorité. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu égoïste, là, mais il faut défendre. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation, là, si personne ne défend de manière agressive les intérêts du Canada, il n'y a personne qui va le faire. Alors, et ça maintenant, ça va, c'est cette doctrine-là qui se met en place et qu'on ne dit pas trop là, mais quand on regarde tout le virage canadien sur la politique environnementale, etc., bon ben écoutez, à partir du moment où les sables bitumineux représentent des milliards et des milliards et des emplois, il faut être honnête et on ne peut pas. Et on était un peu malhonnête là. Quand le Canada a signé Kyoto, on savait que le Canada n'avait aucunement la capacité de respecter le protocole de Kyoto. Mais notre comportement de good guy, si le Canada bougeait, ça faisait bouger telle et telle personne, et on allait avoir le protocole de Kyoto. On l'a fait. Mais quelque part, là, c'était un peu malhonnête, parce qu'on savait que le Canada, à cause de son tissu industriel et tout, n'avait jamais la capacité de respecter Kyoto. Et là, je pense qu'on peut être... Et là, je crois que maintenant, le gouvernement a une approche plutôt de dire, écoutez, on a des intérêts, on va les défendre comme n'importe quel autre pays. Et ça, c'est nouveau pour le Canada. C'est nouveau pour le Canada. Donc, les gens sont un peu étonnés, là, parce que, bon, maintenant, quand on regarde l'Afrique, on regarde quels sont les intérêts des compagnies minières canadiennes, où sont-elles, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, etc. Donc, et ça, c'est un virement. Et je pense que le fait que la doctrine Pearson soit morte. Il y a encore des gens qui ont beaucoup de nostalgie. Si vous allez dans le Parti libéral du Canada, il y a beaucoup de gens qui ont encore de nostalgie. Mais selon moi, je pense que ça sera autre chose de toute façon. Mais la défense des intérêts nationaux sera beaucoup plus au cœur de la politique étrangère canadienne que ça l'a été par le passé. Et là, je crois qu'il faut accepter ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a des politiques, des fois, qui sont un peu brutales, comme les visas et tout, mais les intérêts canadiens sont importants.
Là, je vais réagir.
Là, j'aimerais juste...
C'est pour ça!
Non, simplement dire, il s'agit de définir c'est quoi les intérêts nationaux. Moi, l'expérience que j'ai eue à Cuba, la politique qui avait été adoptée à ce moment-là, a très, très bien servi les intérêts nationaux du Canada.
Oui, oui.
Alors, la politique, même sous la doctrine Pearson, et par la suite, là, il y a quand même, il y avait à cœur la défense des intérêts nationaux.
Attention, Cuba. Non, OK. Mais je veux juste dire que Cuba est un bon exemple de la défense des intérêts nationaux. Le Canada est l'un des plus grands investisseurs à Cuba.
Oui.
Je veux dire, avec l'Espagne, le Canada est un plus grand investisseur. Ça, c'est un bon exemple de la défense des intérêts nationaux. On a eu notre politique d'ouverture, mais derrière ça, il y a quand même eu tout un développement des relations et toute l'industrie touristique. Il y a des intérêts canadiens très importants à Cuba. Et ça, c'est un bon exemple. Cuba, selon moi, fait la synthèse, parce qu'on est à Cuba, quand on regarde les intérêts nationaux du Canada, sont très importants.
Oui. Okay. C'est justement, ça illustre ce que je disais, c'est qu'on peut poursuivre une politique, je dirais, autonome ou originale ou de good guy et bien servir ses intérêts nationaux, et Cuba en est un exemple. Si on a autant d'investissements à Cuba aujourd'hui, le Canada joue un rôle important auprès du gouvernement cubain. Donc, définir ses intérêts nationaux en ayant une vision très étroite de son rôle à l'international, je ne suis pas sûr que c'est la bonne décision. Alors, c'est ça, moi, que je conteste là, sur le plan...
C'est ce sur quoi je voulais intervenir, parce que, vous avez raison dans l'analyse, là. Mais au niveau international, on projette ses intérêts nationaux, mais comme vient de dire qu'il y a de l'argent, c'est évidemment pas suffisant. Il faut projeter autre chose aussi. Et si on ne projette que des intérêts commerciaux, là, il y a des autres perspectives. Il faut aller dans d'autres domaines. Mais je vais vous amener sur un terrain qui va peut-être nous amener à dépolariser ça. Il y a un domaine dans lequel vous avez mentionné les mines antipersonnelles. Il y a un autre dossier sur lequel le Canada a joué un rôle très important, c'est la promotion de la diversité culturelle.
Ouais.
Hein? Alors les trois, le Mexique a signé cette convention. Là, ma question s'adresse aux trois, en commençant par vous, Excellence. Est-ce que le Mexique, après avoir signé la convention, applique ses protections dans les accords que le gouvernement signe avec d'autres partenaires, ou si finalement la projection qu'on avait pu faire, voulu faire, sur le dossier de la protection des diversités culturelles, le Mexique a signé, mais ne l'applique pas. Et la même question viendra tout à l'heure.
Je ne suis pas un expert cette matière-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons certains mécanismes à l'intérieur du Mexique qui immédiatement sauteraient, protesteraient si jamais on ne tenait pas en compte nos engagements internationaux. Nous avons plusieurs organismes de l'État qui s'occupent des peuples autochtones, des langues, des autogouvernements, des autonomies, de beaucoup de choses qui ont attrait à la diversité culturelle. Et je suis sûr que ça ne marcherait pas si on ne prenait pas en compte ça.
Mais dans les accords que vous signez avec l'extérieur, oui. vous portez cette...
Tout à fait, parce que nos accords à l'extérieur doivent passer par le Sénat. Et dans le Sénat, il y a des mécanismes de contrôle pour que les choses se respectent, oui.
Moi, je dirais juste qu'on est en train de le faire avec l'accord sur l'Union européenne, que c'est tout à fait intégré dans l'accord Union européenne. Je voudrais juste une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que je dis qu'on doit s'occuper des intérêts nationaux que je défends la politique du gouvernement conservateur. Personnellement, moi, je suis critique de ce qu'a fait le gouvernement conservateur, ce qui est unique, je pense, dans la politique étrangère canadienne, c'est qu'ils ont utilisé la politique étrangère canadienne comme un outil pour générer des votes au Canada. Et ça, bon, ben, ça s'était jamais fait. Mais pour comprendre la politique du gouvernement conservateur, il faut savoir que la politique est un instrument pour gagner des votes. Et quand on regarde aujourd'hui, prenons la position au Sri Lanka, là, on vient de boycotter le sommet Sri Lanka. Pourquoi on fait ça? Parce que le Canada est le pays qui a la communauté tamoule la plus importante. Je veux dire, et les Tamouls, regardez comment ils ont voté aux dernières élections. Ça a été tout à fait payant pour le gouvernement conservateur. Quand vous regardez où est allé notre premier ministre, le premier ministre est allé en Croatie. Écoutez, là. Ah, la commission. Il y a une chambre de commerce Croatie-Canada, siège est en Alberta, ils ont voté. Et quand vous regardez, sérieusement, c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'un gouvernement national utilise la politique étrangère comme un instrument pour générer des votes. Et les positions politiques canadiennes, souvent, reflètent des préoccupations des communautés de certains pays au Canada. Mais tout ça est fait pour aller chercher des votes. Et c'est pour ça que moi, je suis critique un peu de la politique étrangère canadienne, en ce sens que ce n'est pas vraiment une politique étrangère, là. C'est beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas promouvoir les intérêts nationaux. C'est tout. Et je ne veux pas défendre la politique du gouvernement conservateur, au contraire, mais je pense que le Canada doit devenir plus affirmatif dans la défense de ses intérêts nationaux sur la scène internationale.
Là-dessus, je vais être d'accord avec Claude. Si la politique étrangère est une façon d'aller chercher des votes, peut-être ça explique qu'il y a seulement 5 députés conservateurs au Québec.
Mathieu,
c'est un peu pour vous sortir de votre zone de confort. On a analysé un peu la politique canadienne. Quand est-ce que le Mexique va vouloir jouer un rôle plus visible sur la scène internationale compte tenu de son nouveau statut de next-elite, comme on peut dire, qui est très connecté, comme vous avez dit, à l'Amérique du Nord,
Je crois que le Mexique joue un rôle assez important, il l'a joué toujours jusqu'à présent. C'est un pays incontournable, quelqu'un disait tout à l'heure, et je suis absolument convaincu que c'est comme ça. Nous avons eu, à un moment donné, disons sous le gouvernement Fox, et qui a changé un peu par la suite avec le gouvernement Calderón, quelques problèmes importants avec l'Amérique latine notamment.
nous sommes éloignés. L'échec de ALCA en Argentine en 2005 était très clair. Aussi, nous avons eu des problèmes avec Cuba, qui se sont arrangés par la suite avec le gouvernement Calderón, et des problèmes assez sérieux aussi avec le Venezuela, et qui aussi se sont arrangés par la suite. Avec le gouvernement de Peña Nieto, il a défini 5 piliers importants. Un des 5, c'est México, un país con responsabilidad global. Alors, nous travaillons dans ce sens-là. Nous remettions en question, par exemple, notre participation aux opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies, où nous n'avons pas participé jusqu'à présent. Il y a une demande assez importante de beaucoup de pays qui se disent, bon, si le Mexique est une des économies les plus importantes, et que si le Mexique sera un pays dans 2050 parmi les 5 ou 7 premiers, pourquoi ne s'engage-t-il pas davantage? Alors là, on est en train de penser à ça. C'est un débat national très important qui va se tenir certainement bientôt. Et nous participons assez fortement aussi à tout ce qui a trait à la réforme des Nations Unies, et assez fort là aussi. Et je crois que nous sommes assez présents dans toutes les négociations qui sont en train de se faire en ce moment. On a parlé du TPP, mais aussi l'Alliance et beaucoup d'autres choses en ce moment. Je ne crois pas que, disons, il va falloir faire une évaluation de ce qu'on est en train de faire d'ici 6 mois, 1 an, et je crois qu'on va voir, on va voir une différence et un Mexique un peu plus présent que ce qu'il était avant.
Merci. Merci.
Ouais.
Messieurs, je vous remercie de votre contribution. Vous êtes tout dans le zoo tout à fait intéressant, très enrichissant. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est une façon de rétablir un peu les ponts entre le Mexique et le Canada et le Québec, et puis même au niveau universitaire, pas trop peu de ces relations diplomatiques et stratégiques. Je vous remercie aussi d'avoir bien assisté au sujet et d'avoir votre assistance, et vous verrez à suivre les autres activités qu'on a prévues pendant cette semaine. Merci.